Alors, déjà, je voulais vous dire que je me reconnaissais très bien dans le moment de solitude dont vous parliez quand on est thésard et qu'on doit parler de ça à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je me posais une bête question concernant l'utilisation de l'outil Internet, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous conseilleriez de l'utiliser même pendant la thèse? Quand on en est arrivé à un stade où on en est quand même à un stade où on produit des articles, où on maîtrise certaines techniques, etc. Est-ce que vous conseilleriez pendant la thèse de commencer?
Oui. Oui, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, alors là, je fais juste une parenthèse pour pas que vous interprétiez mal ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai présenté beaucoup d'outils. Pour ceux qui les maîtrisent, vous pouvez y aller, encore une fois, en vous positionnant clairement et en mettant ça à l'intérieur d'une stratégie. Pour ceux qui, par contre, veulent s'y mettre, je vous conseille d'y aller petit à petit, c'est-à-dire outil par outil. Vous commencez par vous lancer sur un truc, vous apprenez à le maîtriser, ensuite vous passez à un autre, etc. Voyez? Je ferme la parenthèse. Par rapport à ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant d'être sur, d'utiliser des outils comme cela. J'allais dire d'être sur les réseaux sociaux, mais j'ai un peu peur de cette expression parce qu'encore une fois, y être dessus, ça sert à rien. C'est ce qu'on y fait qui compte. Mais c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez rencontrer des gens qui ont des affinités, ne serait-ce qu'intellectuelles ou professionnelles, avec vous. Ces gens-là, vous allez pouvoir échanger. Ces gens-là vont peut-être être déterminants dans l'orientation ou les contacts qui vont décider de ce que vous ferez après. Quand vous êtes à l'intérieur de votre thèse, c'est peut-être le moment où vous avez le moins de temps à consacrer à ce genre de choses, quoique parfois ce qu'on appelle les stratégies de fuite se prête bien à ce genre de considération. On est tout content d'avoir l'impression de travailler quand même sur sa thèse en faisant ce genre de choses. Mais par contre, vous avez aussi, donc en faisant ça, ça peut, à condition d'arriver à l'encadrer justement et à le rendre compatible, lorsque à un colloque, vous avez quelqu'un qui fait une communication et que vous, ça vous intéresse, que vous en parlez sur votre blog, etc. Il y a de grandes chances que la personne, parce que c'est un être humain avec la dose de narcissisme qui nous est à tous commun, qui va aller voir sur Internet si on parle de sa communication, eh bien, si elle voit que vous, ça vous a intéressé et que vous, en plus, vous proposez un avis dessus, parce qu'évidemment, en tant que spécialiste, vous avez quand même comme responsabilité de vous exprimer sur votre domaine. Il ne suffit pas de faire état des choses. Et donc, de donner un point de vue, de le confronter peut-être à votre propre travail, etc. Là, vous allez mettre en place des discussions. Votre blog va être bientôt connu des personnes qui sont dans le même domaine. Il va devenir, je parlais tout à l'heure, vous vous souvenez dans le tableau qui montrait les différents lieux d'Internet, il va devenir un lieu de rendez-vous où les gens vont venir de temps en temps voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été posté, qui a répondu aux commentaires que j'ai laissés la dernière fois, etc. Et donc là, vous allez devenir tout simplement, vous saviez, vous étiez expert de votre domaine en tant que thésard. Ben maintenant, les autres vont le savoir, quoi. Voilà, ça va être ça. Ensuite, vous allez pouvoir aussi relayer éventuellement les choses qui vous intéressent. Il s'agit, à un moment donné, de devenir. Moi, je parlais de Twitter une fois, pour parler que de Twitter. Pour définir ce que permet Twitter, on peut devenir, je parlais du terme, expert en curiosité ciblée. Vous voyez, ça rejoint ce que disait Pascaline par rapport à la curiosité. Vous pouvez devenir, à un moment donné, expert de la curiosité dans un domaine. Twitter, ça permet ça. WordPress, enfin les blogs en général, c'est plus fouillé puisque là, c'est vous qui allez produire du contenu. Donc là, votre blog devient carrément un espace de recherche pratiquement, donc c'est beaucoup plus sérieux, quoi. Mais après, le blog prend aussi une autre dimension tout de suite.
Si je peux me permettre, on parle d'irréputation. Et la réputation, ça se construit. Donc, plus vous vous mettez déjà en scène, plus vous allez créer une sorte d'album déjà créé, un chemin, ou en tout cas, je dirais, une suite d'éléments qui, dans un avenir plus ou moins proche, va permettre à cette personne, ou à des personnes, à des professionnels, de se dire, ben tiens, c'est intéressant, lui, il a commencé à telle époque. Donc c'est quelqu'un dans l'esprit de celui qui va lire en se disant, mais c'est quelqu'un quand même qui avait déjà envie voilà, de travailler, de s'externaliser, on va dire. Donc vous voyez, toute la dimension de la e-réputation, et vraiment, c'est une importance de construire sa réputation, parce que c'est vraiment comme si c'était un album que vous construisez. C'est tout un chemin, c'est une sorte de tracé, petit caillou, hein, prendre des références littéraires, pour permettre à chaque année, chaque mois, chaque avancée dans le temps, de donner des éléments à celui qui découvre votre site, votre blog, qui découvre votre nom, voilà, suite à des rencontres formelles ou informelles. Donc, en se disant, ça construit déjà chez lui une image de ce que vous êtes. En se disant, bah oui, lui, il a commencé tôt, il s'est intéressé. Tiens, on voit comment il évolue aussi dans sa façon d'écrire, dans sa façon de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Comprenez ? Toute cette dimension qui paraît peut-être un peu abstraite, mais quand on se projette, c'est ça l'importance de la e-réputation. Et c'est pour ça qu'il est important d'être toujours, avoir de l'impact dans ce qu'on écrit, à qui et pourquoi.
Merci.
C'est moi.
Alors en fait, moi, ce n'était pas tellement une question, mais plutôt une remarque, justement pour rebondir sur le fait. Moi, j'avais créé justement, là, il y a très récemment, une page perso. Des pages perso qu'on peut créer gratuitement pour justement... commencer à créer ce réseau, et c'est justement c'était suite à un petit déj de l'asso. J'avais eu cette initiative, et c'est vrai que c'est assez simple, et ça permet de mettre un petit peu, de parler de son travail, de mettre en ligne même les publications qu'on a fait, et aussi donc la question que je me posais, c'était comment faire pour que quand on tape mon nom sur Google, directement on accède à cette page perso. Et finalement la réponse m'est venue en discutant avec un collègue, un maître de conférence à la fac, qui m'a dit, en fait, en mettant les cours, parce que je donne aussi les cours à la fac, et en mettant les cours, des supports de cours sur la page perso, les étudiants vont sur la page, donc visite, augmente le nombre de visites, et donc ça remonte en fait dans les critères de recherche Google. Et donc, tout simplement comme ça, maintenant, là, ça fait à peine un mois. Il y a un mois, elle était en peut-être troisième, quatrième page, et là, c'est le premier lien qu'on a quand on recherche juste nom, prénom. Donc c'était un outil en plus des blogs et des réseaux sociaux. Je trouve intéressant de partager un peu cette expérience que j'ai eue.
Voilà. Ça va très vite.
Et ça va, oui, ça va assez vite. Et puis après, ça permet de justement aux étudiants à chaque fois de dire allez-y, allez chercher le cours. Eux, ils augmentent le nombre. Et après, en communication... en congrès, ou alors même sur une carte de visite, après, il suffit de mettre l'adresse de la page perso. Ça permet de vraiment mettre ce qu'on veut, développer un peu plus qu'un CV, mettre le CV en ligne d'ailleurs aussi, mettre le lien, voilà.
Et justement, par rapport à ça, pour aller là aussi dans votre sens, les réseaux sociaux, certaines entreprises utilisent les réseaux sociaux que pour le référencement. C'est-à-dire que on sait bien, vous le savez sans doute, que le référencement parmi les données qu'intègre l'algorithme très compliqué de Google, vous avez notamment le fait que des liens, que des sites à forte fréquentation pointent des liens vers votre propre site. Et donc, du coup, les réseaux sociaux, pour ça, servent votre référencement, puisque, évidemment, Facebook, qui vient de dépasser le milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, forcément, quand vous avez un lien depuis Facebook vers votre site, ça va générer du référencement. Pareil sur Twitter, parce qu'en plus, vous avez ce qu'on appelle la diffusion virale, c'est-à-dire qu'une information, c'est ce que je mettais tout à l'heure dans l'espèce de schéma avec les flèches qui partaient vers l'extérieur, puis ensuite ça circule entre eux, et puis ça revient vers vous, vous voyez. Et c'est un petit peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous placez quelque chose sur Internet, ça va circuler en dehors de votre intervention, et cette circulation va créer, là aussi, va générer un référencement, va augmenter votre référencement, puisque vous allez être considéré sur les mots-clés que vous aurez fait figurer comme quelqu'un d'influent, c'est le terme qu'on emploie. Donc voilà, ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez par rapport à ça. Par exemple, un réseau social comme Google+, est assez peu utilisé, qui avait été placé au départ par Google comme une volonté de concurrencer Facebook. C'est pas le cas au niveau de l'audience, au niveau de l'utilisation, mais par contre, vu que ça fait partie de Google, et que forcément Google le favorise, quand vous mettez un de vos articles sur Google+, ça va se ressentir au niveau du référencement. Donc certaines entreprises ne créent une page Google+ que pour aider au référencement de leur site ou de leur blog.
Bonjour. Ah, c'est une question sur, sur Viadeo ou des sites que, de ce genre-là. C'est, par exemple, pour rester cohérent sur mon profil, si je trouve par exemple des gens de mon promo, de l'agro, ou de, qui professionnellement sont un petit peu plus éloignés parce qu'ils sont dans d'autres domaines, est-ce que ça vaut le coup d'être en contact avec eux via ces pages ou il vaut mieux juste rester dans le strict environnement de mon domaine ?
Alors là, vous posez une question très intéressante qui est celle de la stratégie. C'est-à-dire, et ça c'est vrai que c'est quelque chose à quoi il faut penser. Quelle est la stratégie, notamment ça peut être la stratégie d'abonnement sur Twitter, la stratégie de contact et de réseautage sur Viadeo et LinkedIn. Voilà. Viadeo, c'est un côté encore assez convivial. C'est-à-dire que moi, au départ, quand je me suis mis sur Viadeo, j'avais décidé de ne me mettre en contact qu'avec les gens avec qui j'étais vraiment en contact dans la vie professionnelle. Mais on s'aperçoit très vite que c'est difficile parce que vous avez tout le temps beaucoup de demandes. Enfin, en tout cas, vous en avez régulièrement, en fonction du profil aussi. Et donc, du coup, c'est difficile de se cantonner à ça. C'est encore une fois un choix que vous pouvez prendre. Moi, lorsque vous avez des gens qui sont soit en recherche d'emploi, soit en création de réseau, dans ce cadre-là, oui, c'est intéressant. Maintenant, ce que je vous conseillerais de faire à chaque fois, c'est une stratégie qui marche tout le temps, c'est de personnaliser vos demandes. C'est-à-dire de montrer, parce que vous avez à chaque fois que vous demandez quelqu'un sur Viadeo, je parle des gens que vous ne connaissez pas directement. Hein. Quand vous voulez contacter des gens qui ne sont pas de votre entourage, enfin moi, lorsque je croise quelqu'un et que je travaille avec ou qu'on discute et qu'ensuite je fais une demande sur Viadeo, je ne mets pas forcément un mot personnel parce que la raison d'être de ma demande tombe sous le sens. Mais lorsque vous voulez contacter, et ça m'arrive aussi, des gens que vous ne connaissez pas personnellement ou avec qui vous n'avez jamais travaillé, essayez de montrer dans le petit mot que vous faites, et là on rejoint l'intervention de Pascaline aussi, que vous vous êtes intéressé à son activité, qu'il y a une raison autre que la volonté d'avoir un grand nombre de contacts qui motive votre demande, et que vous êtes donc un interlocuteur réel et non pas simplement un plus un dans sa liste de contacts directs, quoi. C'est ça qui va être intéressant dans cette utilisation là. Après, vous avez des gens vous allez faire face à des gens qui ont eux aussi leur propre stratégie d'acceptation. Les gens qui sont très souvent sollicités vont peut-être refuser, ça arrive rarement, mais refuser votre mise en contact. D'autres vont l'accepter sans faire attention parce qu'ils font ça. Et d'autres, par contre, qui ont peut-être une curiosité particulière, vont rentrer, grâce à ce mot personnel que vous aurez fait, vont rentrer en contact avec vous et ça donnera peut-être lieu à des contacts futurs après, quoi. Ce qui se passe souvent, en tout cas pour moi, c'est lorsque Viadeo et LinkedIn sont utilisés en complément d'autres réseaux sociaux plus interactifs. Si je parle du simple domaine du doctorat, de la thèse, de la recherche et de l'innovation, vu que moi, sur mon compte Twitter, j'ai un topic scoopit justement consacré à ce domaine, du coup, ça m'a permis de créer, entre guillemets, des liens virtuels, hein, via les réseaux sociaux, avec des gens qui sont intéressés par les mêmes choses. Je ne parle même pas de contact de Catherine ou d'autres, mais au-delà de ça, dans d'autres régions de France. Et donc, ces gens-là, du coup, en échange plusieurs tweets, plusieurs fois je les retweet, ils me retweetent. Du coup, on est en contact presque régulier parce qu'on sait qu'on s'intéresse aux mêmes choses. Du coup, au bout de quelques semaines ou mois, la personne me demande en contact sur Viadeo. Hop, du coup, on a les mails. Avec les mails, vous voyez, ça peut se faire comme ça aussi. Et à ce moment-là, il y a une cohérence derrière. Il n'y a plus besoin d'avoir une ligne stratégique. Après, ce qui est sûr, c'est que je me suis retourné régulièrement, sur, notamment par rapport à Viadeo, sur tous les contacts que j'ai. Et j'avoue qu'il y en a beaucoup dont je me souviens, quand je vois le nom, je ne vois pas du tout quelle activité ils ont. Si vous voulez, Viadeo, c'est stérile si vous ne prolongez pas la mise en contact par quelque chose de concret, par une volonté d'échange. Donc moi, je vous conseille, pour répondre à votre question, le conseil que je vous donnerai, c'est de faire la demande en contact en ayant une idée et de la suite dans les idées. C'est-à-dire en ayant déjà prévu, qu'est-ce que vous ferez de ce contact-là, s'il aboutit. La mise en contact virtuelle sur Viadeo ou sur LinkedIn n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Un moyen de quoi ? C'est à vous de savoir. Vous voyez ?